Chapitre 8. Mistress Barnabé perd connaissance et revient à elle. Elle prend une résolution désespérée. Miss Morrison montre qu'elle sait être une amie dans le malheur. Agnès trouve une consolation dans le chagrin lui-même. Quand Mistress Barnaby revint à elle, car elle était tombée en syncope pour tout de bon, c'est dans une proportion exactement égale à la somme de dépenses que sa noble illusion lui avait coûtée, qu'elle ressentit l'horreur de sa situation. Avec Miss Morrison, qui avait entendu toutes ses espérances, elle ne se fit aucun scrupule de manifester son désespoir, sans toutefois entrer dans la question financière, mais laissant croire à cette sympathisante amie que l'agonie qu'elle subissait venait entièrement d'un désappointement d'amour. « Quel Lovelace ! Quel Lothario ! En voilà un trompeur fini ! Quelle horreur ! » s'écriait la vieille fille compatissante. « Et combien je dois être reconnaissante quand je pense que jamais aucun homme ne pourra me causer une pareille émotion. Non, jamais !»« Grand Dieu du ciel ! Que vais-je devenir ?» s'écriait Mistress Barnaby, n'ayant pas l'air de trouver une grande consolation dans l'assurance que lui donnait son amie d'être elle-même à l'abri d'un semblable malheur. « Que dois-je faire, Miss Morrison? Si je partais immédiatement pour Londres, croyez-vous que je puisse atteindre le monstre avant qu'il ne soit parti pour Rome ?» Miss Morrison, qui avait repris le journal, examinait la date et relisait le fatal paragraphe. Elle répliqua « Vous le pourriez sûrement, ma chère Mistress Barnaby, si ceci est exact. Mais à votre place, je réfléchirai sérieusement avant de m'y décider. Il est vrai que je n'ai jamais été courtisée par un lord, mais je crois savoir que lorsqu'il se montre rebelle, il est fort difficile de les tenir. Si vous courez après lui sans réussir à toucher son cœur cruel, vous serez plus malheureuse encore que vous ne l'êtes à cette heure. Ça est clair. » « Cela peut être très vrai dans un sens, Miss Morrison, reprit la veuve infortunée, mais ce n'est pas une petite affaire que de poursuivre un homme de par la loi pour rupture de promesses de mariage, et bien que l'argent n'ait pour moi aucune importance, je serais très fière d'avoir des dommages et intérêts quand ce ne serait que pour prouver au monde que c'est un homme sans honneur. « Ceci est tout différent, dit la confidente, tout à fait différent. Et si vous avez l'intention de faire un procès, je crois pouvoir vous être très utile, car mon frère est avocat à Londres et renommé particulièrement pour son habileté dans ces sortes d'affaires. Auriez-vous une preuve, ma chère dame? C'est ce que bien certainement mon frère va vous dire. Je sais que vous avez des paquets de lettres. Si vous les avez toutes gardées, il est plus que probable que mon frère trouvera en elles quelque chose comme une preuve. Elle est si habile. Une preuve? Ah, j'en ai assez des preuves, si c'est là tout ce qu'il faut. Et je vais aller trouver votre frère tout de suite, Miss Morrison, car je me vengerai si je ne puis avoir rien d'autre. Et bien entendu, vous prendrez avec vous toutes les lettres d'amour qu'il vous a écrites, Mistress Barnaby. Mais j'y pense, si vous vouliez m'y laisser jeter un coup d'œil, je serais très capable de vous dire si elles pourront servir ou non. J'aime et connais un peu. « Je n'ai aucune raison pour ne pas vous les montrer toutes, » reprit la femme outragée. « Ah, j'ai tant de choses à faire, Miss Morrison, que je n'en viendrai jamais à bout sans votre aide amicale. Mais j'y songe. » Mistress Barnaby songeait en effet à des choses fort utiles. Elle songeait que, quoiqu'elle eût gaspillé 70 ou 80 livres sterling en bagatelles, dépenses dont son noble adorateur avait été en grande partie la cause, les achats n'étaient encore qu'à l'état de dette et que l'argent avec lequel elle se proposait de les régler produisait encore son intérêt sur les fonds de l'État, que, par conséquent, si elle pouvait s'arranger de manière à ne pas payer les plus lourdes de ses dettes jusqu'au moment où elle connaîtrait le résultat de l'attaque qu'elle comptait diriger sur la bourse de Lord Mucklebury, ce serait infiniment plus commode. Peut-être quelque vague idée de faire une pointe sur le continent et d'échapper de cette façon à la nécessité de les payer jamais, se mêlait-elle à ses méditations? Toujours est-il qu'elle se décida très vite à quitter Cheltenham dès le lendemain, sans prévenir ni la modiste, ni la lingère, ni la couturière, ni le loueur de voiture, etc., etc., ni même son coiffeur. Si elle arrivait à se faire donner des dommages et intérêts, elle reviendrait certainement et paierait tout avec éclat. Sinon, les événements décideraient de ce qu'elle aurait à faire. Malgré toute son estime pour Miss Morrison, elle ne crut pas nécessaire de la troubler de ces détails insignifiants et reprit la conversation en disant « Oui, ma chère Miss Morrison, j'étais en train de songer que ce que j'ai de mieux à faire est d'aller à Londres pour un jour ou deux. J'y verrai votre frère, je remettrai tous mes documents entre ses mains et je reviendrai à Cheltenham pour terminer la saison, car je suis sûre que votre affectueuse société seule pourra me rendre le calme de mes esprits. » « En vérité, j'approuve entièrement votre détermination, » reprit Miss Morrison. « Je vais écrire quelques lignes que vous remettrez à mon frère. Je vais lui dire que je considérerai tout ce qu'il fera pour vous comme une faveur à moi personnelle. » « Jamais je ne saurais vous remercier assez, » dit la veuve en lui serrant la main. « J'ai l'intention de revenir vendredi soir. Quelle nécessité y a-t-il pour moi de rester à Londres, n'est-ce pas ?»« Aucune, absolument. » »« Eh bien, vous seriez aimable d'aller écrire votre lettre tout de suite. Moi, je vais parler à Agnès et à ma femme de chambre pour les mâles. »« Peut-être préféreriez-vous ne pas emmener Mademoiselle Willoughby. » Si vous voulez me la confier, j'en aurai le plus grand soin. Que vous êtes bonne, mais je crois que je l'emmènerai. Il faut que la femme de chambre reste pour finir ce qu'elle a en train. Vous savez, elle fait fort bien les reprises, et je lui ai donné à raccommoder l'accroc que cet exécrable lord a fait à ma robe de mousseline des Indes. Je prendrai donc ma nièce avec moi, car j'ai absolument besoin de quelqu'un pour lacer mon corset et agrafer mes robes. Rien ne vint mettre obstacle à l'exécution de ce plan conçu en hâte, mais fort adroit. Mistress Barnabé avait payé tous les frais d'hôtel avec une telle prodigalité qu'elle s'était acquis l'opinion la plus favorable de la part des maîtres et des domestiques de la maison. Aussi, quand elle fit appeler monsieur le propriétaire pour lui annoncer qu'elle allait passer 2 jours à Londres, mais qu'elle gardait ses chambres et laissait ses domestiques, reçut-il cette communication d'un air très satisfait et l'assura-t-il que personne, excepté ses gens, n'entrerait dans son salon jusqu'à son retour. Ses arrangements préliminaires heureusement terminés, Mistress Barnabé monta dans sa chambre à coucher où, comme toujours, elle trouva Agnès travaillant avec ardeur dans son petit coin en attendant l'heure de l'engagement qu'elle avait pris pour le soir avec Lady Stephenson. Que ce fût pour une raison ou pour une autre, Mistress Barnabé préférait de beaucoup ne pas avoir Agnès avec elle lorsqu'elle se livrait à ses coquetteries. C'est pourquoi elle l'avait encouragée, aussi bien à Cheltenham qu'à Clifton, à se créer des relations personnelles. Mistress Barnabé savait donc qu'Agnès devait aller passer la soirée chez Lady Elizabeth. Mais en entrant dans la chambre, quand ses yeux rencontrèrent le visage paisible de la jeune fille, il lui prit une forte envie de la tourmenter en lui disant qu'il fallait faire les mâles et, par conséquent, renoncer à aller chez ses amis. Seulement, un instant de réflexion lui ayant fait comprendre que moins elle ferait d'embarras au sujet des susdites mâles et mieux cela vaudrait, elle se contenta simplement de la prévenir qu'étant obligée d'aller à Londres pour un jour ou deux, pour affaire, elle désirait l'emmener afin de laisser la femme de chambre. Et en conséquence, elle la priait de s'arranger de façon à faire sa valise avant de s'en aller cancaner avec ses bonnes amies. Agnès, d'un air très surpris, posa le livre qu'elle tenait. « Ne restez pas à me regarder comme une imbécile, Agnès. Faites vite ce que je vous dis. »« Je n'ai pas grand-chose à emballer, ma tante, si nous ne devons rester qu'un jour ou deux, » dit Agnès. « Quand je vous dis de faire votre mal, mademoiselle, c'est qu'apparemment votre mal doit être fait. » Et je ne vous demande pas de donner votre avis à ce sujet. Faut-il donc mettre dedans toutes mes affaires ? Eh bien oui, plaie de ma vie, répliqua Mistress Barnabé, qui semblait trouver du soulagement à sa mauvaise humeur en parlant avec dureté. Sans faire une observation de plus, Agnès se mit en devoir d'obéir, et le peu d'objets qui composaient sa garde-robe de grand deuil fut bien vite casé dans cette même valise que la tante Betsy lui avait donnée lors de son premier voyage de Silverton à Hampton. « Et mes livres, ma tante ?» dit Agnès, les yeux fixés avec anxiété sur le teint échauffé de la veuve. Mistress Barnaby hésita, Agnès le vit bien. Ce n'était pas le scrupule de priver sa nièce de ce qui faisait le principal bonheur de sa vie qui la rendait hésitante. Elle se demandait si ses livres, dans leur élégant petit casier, n'auraient pas, au point de vue de la vente, une certaine valeur. « Eh, prenez-les si vous voulez, » dit-elle enfin. « Prenez, laissez, je m'en soucie comme d'un fétu de paille. Mais au nom du ciel, ne m'agacez pas. À moins d'être absolument idiote, vous devez bien comprendre, je suppose, que lorsqu'on va à Londres pour affaires, on peut y rester plus longtemps qu'on ne s'y attendait. » Agnès ne fit plus aucune question. Elle emballa tranquillement tout ce qui lui appartenait, et lorsque tout fut terminé, ce qui ne fut pas bien long, elle dit « Puis-je vous être bonne à quelque chose avant de m'en aller, ma tante ?»« Et en quoi, au monde et sur la terre, pouvez-vous jamais être bonne à quelque chose? Je voudrais bien le savoir. Allez-vous-en, pour l'amour de Dieu, le plus vite sera le mieux. » Agnès eut bientôt fait sa très simple toilette, et tout étant parfaitement en ordre pour le départ, elle dit un poli « Adieu, ma tante !» auquel on ne répondit pas et partit. Lady Stephenson avait prêté à Agnès un petit volume de poésie. Le hasard voulut que, désirant le lui rendre avant de quitter Cheltenham, elle entra dans le petit salon de sa tante où devait être le petit livre, et au moment où, l'ayant trouvé, elle allait quitter la pièce, Miss Morrison paraissait à la porte, tenant une lettre à la main, avec un air si agité, si affairé, que l'idée vint à Agnès qu'elle pouvait avoir quelque chose à dire à sa tante. « Faut-il que je monte dire à ma tante de venir vous parler, Miss Morrison ?» dit-elle. « Non, merci, ma chère. Vous êtes bien bonne. Je crois que je ferai mieux de monter. Je suppose qu'elle est fort occupée à faire ses paquets, et peut-être pourrais-je l'aider. » « Alors vous savez qu'elle part demain pour Londres ?» dit Agnès. « Oh, chère, oui, je le sais. Je crois que c'est moi qui lui en ai donné la première l'idée, et ceci est la lettre que je lui donne pour mon frère. Je vous assure que je désire de tout cœur qu'elle réussisse. Ah, combien je voudrais apprendre que Lord Mucklebury a été condamné à lui payer 10 000 livres sterling de dommages et intérêts. »« De dommages et intérêts ?» répliqua Agnès. Et à quel propos ? À quel propos, ma chère enfant ? Hé, mais pour l'avoir trompée d'une façon si abominable ! Il n'y a personne qui, les ayant vus comme moi, n'ait supposé qu'il voulait l'épouser. Mais s'il s'est mal conduit envers elle, Miss Morrison, dit Agnès d'un air fort alarmé, ne sait-elle pas parler d'elle encore bien davantage en mêlant la loi dans tout ceci ? En vérité, Miss Morrison, vous n'auriez pas dû lui conseiller une chose aussi mauvaise, aussi regrettable. Ne me blâmez pas, ma chère, je vous en prie. L'idée est entièrement d'elle, tout à fait, je vous assure, et la seule chose que j'ai faite pour la seconder, c'est d'écrire pour elle cette lettre à mon frère. C'est un homme de loi fort habile, et je vous réponds qu'elle ne peut rien faire de mieux. Il serait infiniment préférable, Miss Morrison, qu'elle ne fît rien du tout, dit Agnès, dont les yeux s'emplissaient de larmes à la pensée de ce nouveau danger. Ma chère demoiselle, je ne crois pas vraiment que vous puissiez vous ériger en juge en pareille matière, riposta la conseillère. Toutefois, puisque vous donnez votre opinion sur ce sujet et que vous semblez avoir une si grande crainte du scandale, je vous dirai que, si elle n'est pas, à l'heure qu'il est, sur la route de Rome, en train de galoper après Lord Mucklebury, c'est à moi que vous le devez. Elle y était toute disposée, je vous assure, et ce n'est qu'en lui parlant de dommages et intérêts que j'ai pu le lui ôter de la tête. Mais vous descendiez, moi je monte. Ainsi donc, adieu. Ne vous effrayez pas plus qu'il n'est nécessaire. Il y a fort peu de chances pour que vous soyez appelé en justice. Au revoir. Agnès, le cœur serré, tremblant pour l'avenir, se dirigea vers la maison de Lady Elizabeth. Lady Stephenson était au piano et la vieille dame lisait à sa fenêtre. Mais aussitôt qu'elle entendit annoncer sa jeune visiteuse, elle ferma son volume en disant « Vous êtes en retard, petite fille. Voici une heure que nous vous attendons. Et c'est d'autant plus ennuyeux que c'est la dernière soirée que nous aurons à nous seuls. » Le colonel Hubert m'écrit pour me prévenir qu'il arrive demain, et il est encore plus sauvage que Sir Edward. Le colonel Hubert arrivait à Cheltenham le jour même où elle en partait. Ce n'était pas là une nouvelle fête pour lui rendre son joyeux entrain, à elle dont le cœur était déjà si agité, si découragé. Aussi, quand elle essaya de parler, fondit-elle en larmes. Lady Stephenson fut à ses côtés en un instant. « Agnès, qu'avez-vous ? Vous êtes aussi pâle qu'un spectre. Auriez-vous appris quelque mauvaise nouvelle ?» Frappée de l'accent avec lequel ceci était dit, et s'apercevant tout de suite que Lady Stephenson pensait que l'annonce de l'arrivée du colonel Hubert avait causé son émotion, elle s'empressa de répondre, avec plus de franchise qu'elle n'en eût montré sans cette circonstance, et raconta tout de suite la raison très suffisante qu'elle avait pour justifier son trouble. « Les nouvelles les plus pénibles et les plus tristes pour moi, Lady Stephenson, dit-elle. Je crois que vous m'avez entendu parler des ridicules coquetteries de ma tante Barnabé avec Lord Mucklebury. Lady Elizabeth en riait l'autre jour. Et qui n'en aurait pas ri, ma chère? On dit que le malin vicomte a fait d'elle le sujet d'une ballade. Mais est-ce là ce qui vous fait pleurer, ou est-ce parce qu'il est parti et que tout est fini ?» « Hélas, Lady Elizabeth, ce n'est pas fini du tout, et c'est pour cela que je pleure, et vraiment, il faut que je vous demande pardon d'amener ici un chagrin si inutile. Mais j'ai découvert que ma tante s'imagine avoir des droits sur lui, des droits légaux, et qu'elle part pour Londres demain afin d'intenter une action contre lui. « Est-ce possible ? » s'écria la vieille Lady, regardant Agnès avec la compassion la plus vraie. Dieu sait si vous avez raison de pleurer, ma pauvre enfant. Je commence à croire que je vous ai donné un mauvais conseil en vous disant de rester avec elle. Après tout, il peut valoir mieux courir quelques risques en la quittant que de braver certains ridicules et certaines disgrâces en restant avec elle. Est-ce qu'elle vous emmène à Londres avec elle ? Demanda Lady Stephenson, la regardant avec un vif intérêt. Oui, Lady Stephenson, je vais avec elle. Il y eut un silence d'une minute ou deux, fort pénible. Les deux amies et admiratrices d'Agnès auraient donné beaucoup pour l'empêcher d'avoir part à une pareille entreprise. Mais se mêler des arrangements pris par une femme telle que Mistress Barnabé, munie d'une autorité aussi indiscutable, était une chose hors de question, et la conviction qu'en avaient ces dames les rendait silencieuses. « Comment avez-vous appris cette étrange histoire, ma chère ?» dit Lady Elizabeth. « Est-ce votre tante qui vous a dit elle-même le but ridicule qu'elle se propose ?»« Non, Lady Elizabeth, elle m'a seulement commandé de préparer ma valise pour aller à Londres avec elle. C'est Miss Morrison, que j'ai rencontrée par hasard, qui m'a appris le but du voyage, et quoique la pensée d'en appeler à la loi me semble bien effrayante, ce n'est pas encore la pire des choses que je redoute. » « Que peut-il y avoir de pire, Agnès ?» dit Lady Stephenson. « J'ai presque honte de vous parler de mes autres craintes, mais lorsque j'ai fait à Miss Morrison une sorte de reproche d'avoir conseillé ce voyage à ma tante et d'avoir écrit sur cette affaire à son frère, qui est homme de loi à Londres, elle m'a dit que je lui devais de la reconnaissance, car c'était elle qui l'avait détourné de suivre Lord Mucklebury jusqu'à Rome, comme c'était sa première intention, et, continua Agnès, en éclatant en larmes de nouveau, « Je soupçonne beaucoup, beaucoup, qu'elle n'y a pas renoncé encore. » Les deux dames échangèrent des regards pleins de compassion et d'effroi, et Lady Elizabeth, faisant signe à Agnès de venir tout près d'elle, et lui prenant affectueusement la main, lui dit avec beaucoup plus de douceur qu'elle n'avait l'habitude d'en montrer, « Ma chère fille, qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Dites-moi, Agnès, dites-moi tout ce qu'on vous a dit. » Agnès se mit à genoux sur le tabouret au pied de la vieille dame et baisant doucement la main vénérable qu'elle lui tendait, dit « Vous êtes bien bonne de permettre que je vous dise tout, car votre jugement est bien plus sûr que le mien. Voici pourquoi je crains tant que ma tante n'ait l'intention d'en faire plus qu'elle n'en a dit à Miss Morrison. C'est qu'elle annonce hautement le projet de s'absenter que pour un jour ou deux, et que pourtant, après me l'avoir dit à moi-même, elle m'a ordonné d'emballer toutes mes affaires, même les livres dont je vous ai parlé, Lady Stephenson. Puis, au lieu de laisser la femme de chambre préparer les choses, elle veut tout faire elle-même, et avant de m'en aller, je l'ai vue qui mettait tout un assortiment de ses plus belles affaires dans une grande malle de voyage qu'elle ne songerait pas à emporter si son intention était réellement de ne rester que 2 jours à Londres pour revenir ici. C'est très suspect en vérité, dit la vieille dame. Mais tout ce que je puis vous dire en réponse à cela, ma pauvre enfant, c'est ceci, il ne faut pas aller avec elle à l'étranger. Je ne suis pas assez riche pour pouvoir me charger de vous. Votre amie Émilie ne saurait effrayer son jeune mari par une pareille demande, mais il ne faut pas que vous alliez à l'étranger avec cette femme-là. Il faut vous faire institutrice puisqu'il en est ainsi. Au lieu de m'y opposer, j'essaierai de vous trouver une situation dans laquelle vous serez du moins plus en sûreté qu'auprès de cette tante Barnabée. Quoi qu'il arrive, ne manquez pas de nous donner de vos nouvelles, et souvenez-vous bien, quand vous verrez qu'elle se propose positivement de vous emmener sur le continent, prenez la voiture de Chatelham et venez me trouver immédiatement. Quelles paroles, et quelles étaient douces à entendre pour Agnès! Le colonel Hubert allait venir s'installer dans cette maison le lendemain et on lui ordonnait formellement d'y revenir chercher un abri dans le cas où ceux qu'elle ne prévoyait que trop arriveraient. Elle ne n'osa pas se fier à sa voix pour dire « Je vous remercie », mais elle se hasarda à lever les yeux sur le visage, un peu dur peut-être, mais si bienveillant, qui s'était penché sur elle, et le baiser qu'elle reçut sur son front prouva que, tout en ne comprenant pas absolument tout ce que signifiait son silence, on ne doutait pas de sa reconnaissance. La soirée ne s'écoula pas comme tant d'autres, si agréable qu'elle avait passé entre ses deux amis. On ne fit aucune musique, on ne lut aucune de ses poésies italiennes ou anglaises, pierre de touche du goût et de l'instruction, avec lesquelles Lady Stephenson aimait à éprouver les dons qu'avait reçus sa jeune favorite. Mais presque tout le temps, la conversation demeura sur l'avenir, si triste, si incertain. À la fin, il fallut dire adieu à ses précieuses amies. Elles embrassèrent, elles bénirent la pauvre enfant avec tendresse, même avec larmes. Et combien elles se doutaient peu du trouble tumultueux qui gonflait le sein d'Agnès. Elle était dans les bras de la sœur de Hubert. C'était la tante, presque la mère de celui-ci, qui s'inclinait vers elle, en la regardant comme si elle eût été sa fille. Et il allait être auprès de cette tante le lendemain, il entendrait prononcer son nom, il apprendrait ses chagrins, les dangers qui l'entouraient, et peut-être apprendrait-il aussi qu'on lui avait offert un asile dans la maison même qu'il habitait. Et tout en leur disant son dernier adieu, tout en franchissant la porte, elle se retournait pour regarder une fois encore ces deux femmes, sur lesquelles, dans quelques heures, il allait reposer ses yeux. Il était évident qu'un certain plaisir se mêlait à toute cette tristesse, car bien qu'elle eût pleuré presque toute la nuit, elle n'aurait pas échangé contre la jouissance d'un esprit calme et d'une nuit tranquille le sentiment intime de se savoir moins éloignée du colonel, même quand ce rapprochement ne consistait que dans les larmes qu'elle avait partagées avec ses plus proches parentes en se séparant d'elle.